L'histoire fantastique que nous allons conter se passa en des temps immémoriaux, dans la nuit du fond des âges, à l'aube de l'histoire des hommes. Ceux-ci vivaient en clans sauvages ou en hordes belliqueuses, qui ignoraient encore tout, ou presque, de ce qui n'était pas la chasse ou le combat. Pour ceux qui marchent debout, tout était mystère. Mystère la pluie et le vent, mystère la nuit et la lune, mystère le jour et le soleil. C'était le temps obscur de l'ignorance, le temps des démons et des grands effrois, mais c'était aussi le temps du courage. Car déjà en ces âges farouches, certains rêvaient d'arracher leurs semblables aux cruautés des combats et aux ténèbres de l'ignorance. Le plus fameux de ces chasseurs, qui pensait avant les autres, fut très certainement le fils de Krao, celui qu'on surnommerait Raon.
Raon, l'enfant des âges farouches, Raon, plus vite que le vent.
Aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de vous parler d'une œuvre qui m'a marqué. Raon, fils des âges farouches. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la cartographie de l'imaginaire.
Pour raconter son monde, l'homme fit de son imagination un univers. C'est au sein de cette tentaculaire fresque d'œuvres qui tapisse notre imaginaire que nous allons plonger pour tenter d'en dresser les contours. Bienvenue dans la cartographie de l'imaginaire.
Scénarisé par Roger Lécureux et illustré par André Chéré, Raon fait sa première apparition dans les pages du journal Pif Gadget le 24 février 1969. L'histoire d'un homme préhistorique, chercheur, scientifique, explorateur, humaniste et philosophe qui explore le monde et l'améliore chaque fois qu'il en a l'occasion, aura tellement de succès qu'il deviendra l'un des piliers les plus importants de la pop culture franco-belge des années 70 à 90. Mais au-delà d'avoir marqué toute une génération de lecteurs, les thèmes qui tissent la toile de fond des histoires de Raon en ont fait un héros au récit intemporel. Si vous m'écoutez depuis le début de ces chroniques, vous vous souvenez probablement de la toute première que j'ai faite sur les cartes de fiction, où j'expliquais, en résumé, comment le décor d'un récit en définit souvent le ton, l'intention et le rythme. Tous ces éléments prendront ici racine à la nuit des temps et à l'aube de l'humanité, la préhistoire. Certes, une préhistoire de fantaisie remplie de dinosaures et de continents cachés, mais surtout une préhistoire où tout commence. L'humanité d'abord, mais surtout ses connaissances, sa curiosité, son envie de découverte et de partage, sa capacité à aimer et à travailler en groupe. C'est dans cet âge-là que tout se dessine, et c'est notre personnage principal qui incarnera toutes ses facettes. Fils de Krao le Sage, frère de tous ceux qui marchent debout, Raon. Mais concrètement, qui est Raon? L'un des éléments les plus caractéristiques de son personnage, c'est évidemment son équipement, un coutelas en ivoire et un collier de griffes. Il a hérité ce dernier de Krao, son père adoptif, mort dans une éruption volcanique. Père adoptif car ses parents biologiques, eux, sont morts alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Doublement orphelin, Raon fonde ainsi son statut de héros. Sans tribu, ni patrie, ni territoire, ni dieu, il transcende tous les liens sociaux et décide de se lancer dans la même quête que son père avant lui, la recherche de la tanière du soleil. Qu'est-ce que le soleil et où va-t-il se reposer pendant la nuit? C'est probablement la toute première des questions existentielles que l'homme s'est posée. En faire la quête principale du premier des hommes sert d'abord de prétexte pour toujours raconter une nouvelle histoire en faisant constamment avancer Raon vers le soleil couchant. Mais ça sert aussi de justification à son caractère curieux et explorateur. Car pour percer le secret de la cachette du soleil, Raon va décider de tout voir, de tout connaître et de tout comprendre en marchant aux quatre coins du monde, en prenant le temps d'observer chacun des endroits où il arrive et en emmagasinant tout le savoir possible. Il observe les phénomènes, les comprend et se les approprie pour ensuite les transmettre. Un saumon accroché à une épine lui donne l'idée de l'hameçon, la queue d'un poisson suggère le gouvernail, une goutte d'eau se transforme en lentille ou en microscope. En quelques années d'exploration, Rahan finit par accumuler une somme de savoir assez conséquente et surtout une grande capacité de jugement et de réflexion. Capacité qu'il devra régulièrement utiliser pour discuter avec ses congénères de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, de jusqu'où il faut croire la parole des sorciers et l'existence des dieux. Et c'est en réalité dans ses interactions avec les autres que se dessinent les grands thèmes idéologiques de la série. Parfaitement conscient de la cruauté et de la crédulité qui peut rendre le genre humain parfois si dangereux, Rahan choisit malgré tout de toujours partager son savoir et d'aider ceux qui en ont besoin. Car tout savoir et tout apprendre ne peut pas se faire dans la solitude. Certaines choses ne peuvent être apprises qu'à l'occasion de la construction des relations humaines et la confrontation des expériences, des idées et des vécus. Et ce que son père adoptif lui a transmis, c'est la profonde croyance que tous les hommes valent autant que lui-même et méritent autant que lui-même. Loin d'être lisse, il y a une motivation derrière son parcours, une volonté de découverte et d'apprentissage qui permet de créer une connexion et un partage avec les autres. C'est en partageant ce qu'il sait que Rahan crée un dialogue avec les différentes tribus qu'il rencontre et leur permet de s'affranchir des superstitions qui les bloquent et qui sont utilisées par des chefs de guerre tyranniques ou des gourous mystiques pour les soumettre. Pour conclure, j'aimerais reprendre un extrait de l'article de Romain Bress dans Le Point Pop, qui m'a énormément aidé dans mes recherches pour cette chronique, ainsi que celui d'Ina Chong pour le site The Good Life. Guidé par une curiosité sincère et une profonde envie d'aider ses semblables, ce n'est jamais pour se rendre maître et possesseur de la nature qu'il explore cette terre vierge et sauvage, ou pour dominer ses semblables. Percer les secrets de la nature et des êtres qui la composent permet surtout à Rahan de ne pas céder aux peurs vaines et à la superstition. Dans l'épisode « Le collier de griffes », il dit à propos de lui-même « Rahan n'a plus peur de la nuit, ni du feu, ni du tonnerre du ciel, ni des fleuves sans fin. » Le paléontologue Yves Coppens, dans son livre « Le genou de Lucie », écrit, je cite « Notre liberté est le fruit de la connaissance, parce qu'un homme, le premier, a osé couper le cordon de la nature, agir sur son environnement et changer le monde. » Avec Rahan, Roger Lecureux et André Chéré, n'ont-ils pas écrit la biographie imaginaire du premier révolutionnaire de la préhistoire? Voilà, c'était la cartographie de l'imaginaire de Rahan. J'espère vous avoir convaincu de lire cette œuvre absolument fantastique et profondément humaniste qui est une de mes œuvres favorites. Je vais vous laisser avec La La Love Me de Monophonics. C'était Achille. Vous êtes toujours sur Radio Boomerang 89.7. À la prochaine. In the dark, waiting for you to say the words that make it all true. Wanting the answers through the good, bad, and the hurt, and needing your love for all that it's worth. Comes.